32 à Paris.
Retour international, vous êtes sur RFI, sur TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Gilles Kepel pour tenter d'y comprendre un peu plus, d'y voir un peu plus clair d'une situation confuse actuellement dans le monde arabe, notamment dans cette région entre l'Irak, l'Iran et la Syrie. Nous étions en train de l'évoquer. Suite de notre entretien avec Sophie Malibaud, RFI.
Est-ce que l'Irak d'aujourd'hui a encore une chance d'exister dans ses frontières actuelles avec des sunnites, des kurdes, des chiites, un gouvernement d'unité comme de nombreuses voix l'appellent.
Comme l'Irak le demande aussi, oui.
Ouais, c'est-à-dire que les frontières sont plus tout où elles étaient. Par exemple, il n'y a plus de frontières entre l'Irak et la Syrie aujourd'hui dans la zone sunnite, puisque l'État islamique, entre guillemets, d'Irak et du Levant l'a effacé. Il la traverse comme ils veulent.
Mais c'est irréversible?
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas trop quelles sont les forces qui peuvent le changer. En revanche, vous avez une nouvelle frontière qui s'est créée autour du Kurdistan irakien, qui est devenu un vrai État et qui a pris Kirkouk. Quand j'étais, il y a quelques années, je demandais à mes étudiants toujours, qu'est-ce qui définit un État au Moyen-Orient? La réponse, c'est une entité qui est capable de signer un contrat avec une compagnie pétrolière internationale et qui a quelque chose qui ressemble à une capitale. Ben, les Kurdes, ça y est, ils ont ça. Leur pétrole coule à travers le pipeline qui passe par la Turquie et qui arrive à Ceyhan en Méditerranée, et d'autre part, ils sont emparés de Kirkouk, qui est leur Jérusalem. Donc là, vous avez quelque chose, un État qui est né.
Mais
vous
avez un Sunnistan. Les Turcs vont laisser faire ça?
Alors, c'est une relation très compliquée. J'étais aussi en Turquie au moment où Mossoul est tombé, où les Turcs ont eu une centaine d'otages dans
la deuxième ville d'Irak.
Voilà, la deuxième ville d'Irak est prise par l'armée islamique, et les responsables turcs à qui j'en parlais me disaient non, on s'inquiète pas parce que au fond, ils sont sunnites comme nous, ils vont pas nous garder. En fait, cette histoire est en train de durer et d'empoisonner la situation. Il faut bien voir que les Turcs, qui étaient perçus comme, au départ, comme anti-kurdes, le kémalisme considère que les Kurdes doivent être intégrés, c'est des Turcs des montagnes, etc. Aujourd'hui, la puissance économique du Kurdistan irakien fait que M. Barzani, le patron des Kurdes d'Irak, incite les Kurdes de Turquie à voter pour M. Erdogan. Ce qui crée une relation de dépendance, et il y a une grosse dépendance économique aussi. Là encore, on ne sait pas très bien, pour l'instant, les frontières turques ne sont pas menacées, mais ce sont des frontières extrêmement effervescentes. La frontière turco-syrienne est une frontière de guerre, et la frontière turco-irakienne aussi. Imaginez si la Turquie était aujourd'hui dans l'Union européenne, donc l'Union européenne, l'espace Schengen aurait comme frontière la Syrie en guerre, l'Irak en guerre et l'Iran en situation compliquée.
Christophe Ayat, Le Monde.
On a longtemps vu, enfin ça fait une décennie qu'on voyait Al-Qaïda comme la principale menace auquel l'Occident pouvait être confronté. Quel type de menace va poser l'État islamique en Irak et au Levant, et quel est son projet au-delà de ces projets régionaux de déstabilisation de l'Irak, de la Syrie, de l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est un projet mondial? Est-ce que on a affaire à une sorte de deuxième Al-Qaïda, beaucoup plus puissant, beaucoup plus riche, beaucoup mieux armé,
menaçant aussi l'Occident ou d'autres capitales,
qui fonctionne en fait de manière très différente? On est dans un Al-Qaïda postmoderne, dans l'Al-Qaïda, c'est Al Jazeera, si vous voulez. Ça naît au milieu des années 90. Ça va avec les chaînes satellitaires arabes. D'ailleurs, Al Jazeera lui donnait beaucoup de publicité. Aujourd'hui, c'est très différent. Ça n'est plus à travers les chaînes. Il y a quelques images, comme celles qu'on a vues tout à l'heure dans votre documentaire, qui passent. Mais ce qui passe de ces images, c'est à travers YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter, etc., etc. Et donc, on a un mouvement djihadiste qui est beaucoup plus déstructuré, au sens du vêtement déstructuré, si vous voulez, et qui construit des systèmes de pouvoir locaux et qui utilise les individus qui viennent sur place pour leur faire accomplir un certain nombre d'actes qui vont affaiblir l'adversaire où qu'il soit. Alors, en deux mots, pour vous l'expliquer, en fait, il y a un idéologue qui est derrière tout ça, dont on ne sait pas s'il est toujours vivant ou s'il est mort, qui s'appelle Abu Musab al-Suri, Abu Musab le Syrien, qui a publié sur l'Internet des milliers et des milliers de pages, très didactiques. C'est un ingénieur formé en France, d'ailleurs à Nancy, et ensuite de nationalité espagnole. J'ai épousé une ancienne gauchiste espagnole qui a écrit un espèce de compendium en ligne qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale ». Et c'est lui qui explique, par exemple, alors qu'on peut voir l'affaire Mera, l'affaire Tsarnaïev, l'affaire Nemmouche, dont les attentats de Boston, l'affaire Mera à Toulouse et l'affaire Nemmouche, donc le suspect du meurtre du musée juif de Bruxelles, à travers ça. C'est-à-dire, il faut non plus, on ne va plus payer des billets d'avion et désigner des cibles, comme le faisait Ben Laden à partir du haut, mais dire les gens sont réislamisés d'une manière salafiste djihadiste sur le terrain, entraînés au maniement d'armes, et après on lui dit, il faut choisir des cibles molles, qui vont coûter le moins cher possible en termes de réalisation et faire le maximum d'effets médiatiques. Par exemple, donc les juifs, pas les centres communaux, pas les centres religieux, parce que ça c'est compliqué à expliquer à la base, la religion, mais des centres communautaires. Par exemple, l'école, dans le cas de Mera, l'école juive de Toulouse, le musée de Bruxelles, dans le cas de Nemmouche. Les grands rassemblements sportifs, les Tsarnaïev à Boston, etc. Ou les militaires musulmans, apostats entre guillemets, donc qui ont renoncé à l'islam, qui servent sous l'uniforme français, anglais, etc. Mera a ciblé principalement des soldats originaires d'Afrique du Nord et il y avait quelque chose qui a été éventé en Angleterre pour tuer des soldats d'origine pakistanaise servant sous l'uniforme britannique. Donc c'est comme ça qu'on voit ce mouvement aujourd'hui. C'est pour ça que je ne crois pas du tout qu'il y ait une grande opération en septembre. En revanche, il risque d'y avoir une multiplication des affaires Nemmouche, Mera, etc. Dans un certain nombre de pays. Et c'est pas un secret, les autorités françaises l'ont déclaré plusieurs fois, qu'ils considèrent que le risque politique des djihadistes retour d'Irak est aujourd'hui, par exemple, pour la France et pour d'autres pays européens et pour d'autres pays de la région, un risque majeur.
Et vous estimez que les autorités devraient réagir comment? Comme la Grande-Bretagne, par exemple, qui a adopté des lois pour interdire un certain nombre de mouvements?
Alors, il y a les mesures d'interdiction. La Grande-Bretagne va plus loin puisqu'elle déchoit de sa nationalité des gens qui auraient été naturalisés anglais s'ils sont prouvés qu'ils sont djihadistes et même s'ils deviennent apatrides. C'est toute la difficulté, c'est d'arriver à est-ce qu'il faut uniquement s'attaquer à l'effet ou est-ce qu'il faut commencer par la cause? Si vous voulez, par exemple, l'un des enjeux aujourd'hui pour les djihadistes français, il y a deux politiques. Il y a une politique qui dit il faut que tous les musulmans dénoncent ces djihadistes. Non. Ça veut dire que quelqu'un qui est musulman, comme vous et moi pouvons être chrétiens, orthodoxes, juifs ou athées, devrait se sentir nécessairement concerné parce qu'il s'appelle Mohamed pour dire je dénonce les djihadistes. Lui-même n'en a rien à faire éventuellement et du coup il se sent incriminé parce qu'on lui dit parce que tu es là. Il me semble plutôt que la bonne politique c'est ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire de faire en sorte que ce milieu, ces familles, etc. qui se sentent menacées par le recrutement de ces jeunes qui se font souvent contre les parents, etc.
Il y a quelques 700 je crois en France.
Oui, 700, 800, les chiffres varient tout le temps, c'est pas très bien, mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines, alors qu'en Afghanistan, on parlait de quelques individus, voire de quelques dizaines.
Hein, ça soit plutôt soutenu, finalement.
Voilà, et donc faire en sorte que les familles se sentent, puissent s'identifier complètement aux institutions françaises. Parce que derrière le projet de Abou Moussa Bessouri, dont je parlais tout à l'heure, il y a l'idée que les actes de violence vont susciter des réactions massives de la société majoritaire. Et donc que celle-ci va devenir, entre guillemets, islamophobe, ce qui fait que des individus issus des populations musulmanes qui n'étaient pas du tout pro-djihadistes vont se solidariser avec eux à cause de la haine des autres. Et Abou Moussa Bessouri voit ça de manière beaucoup plus loin, c'est-à-dire il va y avoir une sorte de guerre civile, de constitution d'enclave, et un peu comme c'est le cas en Irak aujourd'hui, et à terme les sociétés vont éclater. Donc le modèle de la balkanisation irakienne, si vous voulez, est quelque chose qui s'inscrit aussi dans la réflexion dogmatique, idéologique de Souri. Alors ça peut sembler complètement fou et paranoïaque, mais vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont biberonnés à ça.
Christophe Ayad.
Est-ce que vous voyez justement dans les scores du Front National, d'un certain nombre de partis populistes en Europe, une sorte de possible effet d'enchaînement
De réaction,
vous voulez dire qui peut conduire à un sentiment d'exclusion et donc des réactions, etc. Enfin, ce processus que décrit ou qu'espère Abou Moussa Bessouri.
Alors, c'est très paradoxal, parce que dans le livre que je viens de publier, Passion française, les voix des cités, justement, j'ai interviewé plus d'une centaine de candidats aux législatives de 2012, dont les trois quarts de l'échantillon sont originaires du Maghreb et du monde musulman pour l'essentiel. Hein, c'est la première fois qu'il y a, il y a 400 candidats sur 6000. C'est un, on peut considérer
8%
dans un premier temps,
c'est ça.
8%, c'est la distribution de cette population en population globale, et que c'est un signe très positif de, qui va vers l'intégration, puisqu'auparavant ça n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'individus, de citoyens, de nos conseillers issus de cette population dans les institutions publiques et notamment dans le Parlement qui représente la souveraineté française. Mais parmi la masse des candidats, vous avez toutes sortes de gens. Vous avez des gens qui sont socialisés par les partis politiques traditionnels, mais vous avez des petits candidats, eux, qui sont aux marges de tout ça, des candidats de mosquées, des candidats d'associations, etc., et dont un certain nombre, ça m'a beaucoup surpris, sont avec le Front National. C'est pas une masse, bien sûr, hein, mais j'en ai, par exemple, il y a une demi-douzaine de candidats originaires du Maghreb qui sont soit encartés au Front, soit sympathisants du Front. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que le Front National, c'est le parti des exclus. Que les exclus soient des exclus fils de Gaulois, si j'ose dire, ou Français récents. Celui qui pousse à terme cette logique, c'est Alain Soral, qui est donc ancien communiste, aujourd'hui compagnon de route de l'extrême droite, et qui veut unir les fils de Français récents, entre guillemets, et les fils de Gaulois, entre guillemets aussi, dans une lutte contre les élites mondialisées, le sionisme, entre guillemets, on voit évidemment, c'est un mot codé, hein, c'est les juifs, et qui rappelle d'ailleurs l'entre-deux-guerres, puisque d'ailleurs Soral se définit lui-même comme un national-socialiste à la française aujourd'hui. Donc on voit ces lignes de clivage. Paradoxalement, vous avez une partie du vote Front National, qui est un vote anti-immigré, on n'en peut plus, etc., et une partie du vote immigré, qui est faible pour l'instant, qui se porte sur le Front parce que le tabou a été exclu. Alors, a été rompu. Il ne faut pas considérer que c'est un bouleversement massif, mais il y a quelque chose qui a changé, indéniablement. De même que le mariage pour tous, en France, a mobilisé des associations islamiques aux côtés de partis de droite et fait en sorte qu'un certain nombre de villes de banlieues populaires ont basculé, puisque il y avait bien sûr une abstention massive, mais des grosses associations islamiques dans certaines cités, Bobigny par exemple, qui est communiste depuis que le communisme existe, est passé à droite, entre autres parce que les associations islamiques ont rejoint les groupes de droite contre le mariage pour tous et contre les socialistes, entre guillemets, corrupteurs sur la terre.
Sophie Malibaud, RFI.
Et que devient en France, en fait, ce clivage qui existe dans la région, au Moyen-Orient, entre chiites et sunnites ? Qu'est-ce que ça devient dans la communauté musulmane française, ce clivage ?
Alors, les chiites en France sont quasiment inexistants. Mais néanmoins, vous avez quelques groupes pro-chiites qui se sont rapprochés de Soral, dont je parlais à l'instant, donc des groupes d'extrême droite, dont un parti anti-sioniste qui avait été présent notamment aux élections européennes précédentes, qui a fait des scores assez dérisoires, mais qui, en réalité, c'était la volonté des régimes, des durs du régime iranien de trouver autour d'une polarisation anti-israélienne, de recruter des troupes et d'élargir leur base. C'était au moment...
C'est là qu'était Dieudonné, le...
Voilà, exactement, tout
le
ça.
Comique, là aussi, entre guillemets.
Voilà.
Mais logique avec le fait que Marine Le Pen courtise beaucoup Vladimir Poutine et les Russes.
Oui, alors c'est effectivement...
Du fait de leur alliance avec
Bachar. Effectivement, il y a un axe aujourd'hui, Poutine, Bachar et Téhéran. Mais s'il y a le deal irano-américain, évidemment, c'est un énorme coup contre Poutine. Et du reste, les Russes ne veulent absolument pas de ce deal, pour ces raisons politiques, mais aussi pourquoi ? Parce que les Russes sont le premier producteur de gaz de la planète. Si l'Iran signe, et l'Iran est le deuxième producteur de gaz, enfin potentiel, la deuxième réserve exploitée, c'est l'Iran va mettre tout son gaz sur le marché, parce qu'ils ont énormément besoin d'argent, et ça va avoir un effet de baisse des prix. En plus, vous avez ce qu'on appelle la shale revolution, c'est-à-dire le gaz de schiste qui aujourd'hui est produit dans des conditions complexes, mais qui va se développer. Et du coup, les revenus de la Russie vont baisser. C'est d'ailleurs certains géopoliticiens, là je dépasse ma zone de compétence, expliquent que la raison pour laquelle les Russes aujourd'hui sont en train de prendre de progresser sur le terrain en Crimée et ailleurs, c'est pour prendre précaution. En perspective d'une baisse significative de leurs revenus.
Christophe Hayat, Le Monde.
Alors, vous décrivez, à travers par exemple les djihadistes français, qui soient d'origine musulmane ou convertis, et qui se rendent en Turquie pour aller ensuite en Syrie ou en Irak combattre aux côtés de l'État islamique, des parcours très mondialisés comme ça, où les gens sautent les frontières, vivent dans la banlieue parisienne ou bruxelloise, mais suivent sur Twitter ce qui se passe minute par minute.
À Mossoul, oui.
À Mossoul, exactement. Oui. Et il y a un autre pays qui n'échappe pas à ça, au Proche-Orient, c'est Israël, puisque parmi les trois jeunes adolescents qui ont été pris en otage, on ne sait pas trop exactement par qui, cette semaine, je crois, il y a un jeune d'origine américaine qui venait du Wisconsin et qui apparemment était venu très récemment et menait une vie très très proche de celle des colons. Israélien au milieu en plus de d'enclaves palestiniennes ou au milieu de la Cisjordanie. Et est-ce que vous avez observé ce phénomène en allant en Israël?
Oui, alors justement là dans le voyage que j'ai fait, j'ai eu un parcours en Cisjordanie. Et vous savez que la Cisjordanie est divisée en zones différentes, c'est-à-dire vous avez les zones A, B, C. Certaines dans lesquelles les zones A, l'autorité palestinienne exerce en principe tout son contrôle, même si les Israéliens peuvent faire les incursions qu'ils veulent. Et quand vous avez des routes qui vont dans l'autorité palestinienne, territoire A, vous avez d'immenses panneaux en hébreu, en arabe et en anglais qui disent « il est interdit aux citoyens israéliens d'aller là-dedans, danger de mort, ça conduit à un village palestinien ». Vous avez des zones C qui sont complètement sous le contrôle israélien, qui sont celles où il y a les colonies, et puis des zones B qui sont intermédiaires. Et ce qui est très frappant, c'est que vous voyez sur les routes, en même temps, des jeunes, j'en ai vu encore il y a une quinzaine de jours, des jeunes colons ou enfants de colons religieux reconnaissables à leur manière de s'habiller, avec les phylactères, etc., la kippa sur la tête, qui font du stop et pour aller comme cela au lycée ou en revenir ou ailleurs, et qui peuvent être pris aussi par des véhicules, soit de Palestiniens, soit de plaques jaunes, c'est-à-dire des Israéliens ou des Palestiniens qui habitent à Jérusalem. Et donc on voit une espèce d'interpénétration. Il faut voir que la situation en Israël est aujourd'hui très paradoxale, puisque les gens qui vivent en Israël de l'autre côté du mur, c'est-à-dire entre la mer et le mur, à Tel Aviv par exemple, vous avez l'impression que la Palestine n'existe plus pour eux. Ils ont complètement oublié le mur. Vous avez sur les plages de Tel Aviv les filles tatouées qui bronzent. Tel Aviv est pavoisée du drapeau, du flag, du drapeau homosexuel, un peu comme l'était Montpellier. Vous avez toute cette espèce de société. Et de l'autre côté du mur, on est dans un autre monde. Alors, un autre monde dans lequel l'alliance entre Hamas et le Fatah aujourd'hui a créé un gouvernement d'union qui, d'une certaine manière, rend le Hamas beaucoup moins efficace et offensif, parce que Hamas a perdu le soutien de l'Iran, a perdu le soutien de l'Égypte, et aujourd'hui une situation très compliquée, et donc est moins dangereux pour les Israéliens. Mais en même temps, pour une partie du pouvoir israélien, l'enlèvement de ces trois jeunes gens par des inconnus pour l'instant a fourni une occasion remarquable pour accentuer une pression massive sur Hamas, le pourchasser et détruire ses cellules avec des opérations militaires
massive,
en Cisjordanie.
Etc.
Enfin, il y a eu des cette année, cette nuit, il y a eu d'ailleurs des gens qui ont été tués, il y a eu des morts, et ça fait partie aussi d'une certaine manière de prise de position des uns et des autres pour le grand puzzle du Moyen-Orient. Je crois que tout le monde au Moyen-Orient sait qu'il y a des changements fondamentaux qui sont en train de se préparer.
Vous disiez qu'il y a quelques années, quand vous étiez jeune, comme vous disiez, on avait les chercheurs avaient la situation au Proche-Orient en ligne de mire, en pédagogie, en explication de la situation. Est-ce qu'il faut se résigner à ce que le processus de paix, au fond, ne produise jamais rien?
Alors, le processus de paix israélo-palestinien a produit quand même quelque chose, c'est-à-dire pour l'instant, après la seconde intifada, l'échec de la seconde intifada palestinienne, c'est la construction du mur, c'est-à-dire une société israélienne qui vit dans une sorte de bulle et qui est très prospère, avec des start-up, une sorte de Silicon Valley, une prospérité véritable. Et de l'autre côté, la question de savoir si la société palestinienne va pouvoir d'une certaine manière bénéficier des à côté de cette prospérité, ou au contraire va se situer en clivage et en effondrement par rapport à celle-ci. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si le Hamas, qui contrôlait Gaza et qui aujourd'hui a renoncé au contrôle de Gaza, en échange, espérait-il que les dirigeants du Fatah à Ramallah paierait les salaires des fonctionnaires de Gaza qui ne sont plus payés, des fonctionnaires du Hamas, qui n'ont pas fait pour l'instant. Est-ce que tout ça, ça va aboutir à un affaiblissement considérable du Hamas, un peu comme l'affaiblissement énorme des frères musulmans aujourd'hui à cause de la répression en Égypte? Vous voyez, ce sont des... Pour l'instant, à ce stade, moi, je peux essayer de poser des questions, d'identifier des lignes de clivage, mais je ne me risquerai pas à faire un pronostic à 2 ans.
Alors, tant qu'à faire de poser des questions simplistes, est-ce que ce qu'on a vu, le grand public, nous avons tous vu il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, est-ce qu'il est trop tôt pour en faire un bilan? On a le sentiment d'un monde arabe plus compliqué, plus incertain qu'il ne l'était encore avant. On va finir par un certain nombre d'observateurs vont regretter les régimes forts qu'il y avait préalablement.
Oui, c'est le cas d'un certain nombre. Déjà, moi, j'avais, avant Passion française, publié un autre livre là-dedans qui s'appelait Passion arabe, justement, avec qui était le récit de un an et demi de voyage dans ces pays en révolution, un peu dans toute la région, avec le double sens de passion, justement. La passion, c'est l'enthousiasme, en français, hein, en anglais. L'enthousiasme, c'est aussi la passion du Christ, la souffrance. Et il y a ça en permanence, si vous voulez. Vous avez eu 3 phases. Une première phase en 2011, qui est la chute des anciens régimes dictatoriaux, la génération Facebook 2.0, comme on le disait, au Caire. Alors, les journalistes ont adoré parce que
on avait lisible, compréhensible.
Voilà, ça y est, et on a l'impression que on comprend et que finalement, les Arabes, ça y est, ils sont comme nous. Fini Ben Laden, fini Al-Qaïda, fini le djihad.
Démocratie occidentale,
il y aura un parti démocrate et un parti républicain dans chaque pays.
Voilà. Fait est que Al-Qaïda, après cette première vague, comme vous dites, Al-Qaïda a du plomb dans l'aile, si
voilà,
je puis dire.
Voilà, Al-Qaïda, à ce moment-là, disparaît comme instrument, comme structure centralisée, c'est-à-dire concrétisée par la mort de Ben Laden, tué par l'armée américaine. Mais ce qui va se produire, c'est que les révolutions arabes et le maintien de ces frustrations aboutiront, si vous voulez, à l'émergence d'une autre forme de djihadisme qui est celui de l'armée de l'État islamique en Irak et au Liban, vous voyez, qui est au Levant. Donc ça, c'est cette première phase, c'est ça. Mais vous voyez, tous les régimes, les anciens régimes, ne tombent pas partout. Ils tombent seulement en Tunisie, en Égypte et en Libye. Au Yémen, c'est beaucoup plus flou. Au Bahreïn, la révolution est avortée parce que la plupart des révolutionnaires sont des chiites et la monarchie est sunnite. Et en Irak, très vite, ça se traduit en conflit sunnite-chiite.
Et Bachar al-Assad, il a gagné ?
Bachar al-Assad, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a gagné pour l'éternité. Mais en tout cas, il y a quelques temps encore, on annonçait la chute du régime d'Assad dans le mois, dans la semaine, dans la journée ou dans l'heure.
Mais est-ce qu'il faut continuer de soutenir ceux qu'on appelle les opposants modérés, enfin ceux de l'ASL, les Syriens de l'armée syrienne libre, puisque c'était ça la ligne de démarcation que faisait la politique étrangère française, c'est qu'il y a ceux soutenus par Al-Qaïda, il y a aussi donc l'État islamique en Irak et au Levant, et puis et de l'autre côté, il y a une opposition plus modérée, entre guillemets.
Alors, toute la question, c'est justement qu'elle arrive à démontrer son existence. Pour l'instant, c'est aussi...
Elle est mise en échec.
C'est aussi un effet, si vous voulez, de la médiatisation et de la manière dont, évidemment, tout le monde se focalise sur les plus méchants, sur les plus monstrueux. Ces images atroces qu'on a vues tout à l'heure, où on a le gars qui a le malheureux qui est mis à terre avec une mitraillette sur le cou, etc. Bon, évidemment, ça, c'est ce qui fait le plus horreur et... C'est ce que la machine médiatique est telle, c'est ça qu'on retient. Du coup, ceux qui ont une politique plus équilibrée, disons, on ne les voit plus. Cela étant, ils ont aujourd'hui beaucoup de mal à se faire entendre. Ils sont pris entre le marteau des djihadistes et l'enclume du système Bachar. Bachar s'est fait réélire. Alors, personne n'y croit ici, bien sûr. Mais néanmoins, en termes de communication, là encore pour les médias, on montre des femmes dévoilées, des enfants joyeux, des clips vidéo qui votent pour Bachar al-Assad. De l'autre côté, pour l'instant, il n'y a à montrer que des images d'égorgement,
etc. Qu'est-ce que ça va y être le monde ?
Je voudrais reparler d'un pays que vous connaissez bien, que vous avez vécu. C'est l'Égypte. Vous avez connu l'Égypte de Sadat, de Moubarak. Aujourd'hui, on est dans l'Égypte de Sissi. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est plus dur? Qu'est-ce qui est différent? Il y a une forme d'autoritarisme militaire.
Et ce sera la dernière question.
Oui, alors l'Égypte du maréchal Sissi, c'est une Égypte qui ressemble énormément à l'Égypte de Moubarak, mais entre les deux, il y a eu la révolution et il y a eu la prise du pouvoir par les frères musulmans et l'éradication des frères musulmans. C'est-à-dire que si le maréchal Sissi voulait gouverner exactement de la même manière que Moubarak, et ça je crois que les élites égyptiennes en sont très conscientes, il ne survivra pas. Regardez, l'élection n'a pas été un raz-de-marée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont été obligés de donner un troisième jour d'élection, en prétextant qu'il y avait un problème climatique, et puis que les gens priaient,
Pour que les gens y votaient, oui.
Voilà, ils votaient, et les résultats, ça n'a pas été du tout un plébiscite. Donc je crois qu'il est très conscient de ce type de défi aujourd'hui.
Merci Gilles Kepel d'avoir tenté de décrypter avec nous la complexité de cette partie du monde arabe et de l'islam. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre international. Merci Gilles Kepel.
Merci à vous.
On court, on dort, on court, on se réveille, le temps court encore.